Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Aluta continua! Contre qui?
Salut continue. Contre qui, justement?
Contre le tribalisme.
Contre l'analphabétisme.
Contre l'analphabétisme.
Contre l'exploitation de l'homme par l'homme.
Contre l'exploitation de l'homme par l'homme.
Contre la superstition.
Contre la superstition.
Contre la misère.
Contre la misère.
Contre la faim.
Contre la faim. Contre le manque de vêtements. La lutte continue. Pour qu'un jour nous soyons tous égaux.
Que de combats à mener dans un pays depuis 500 ans sous colonisation portugaise, où plus de 90% des Noirs sont analphabètes, où l'économie est tenue par les colons blancs, où le voisin ségrégationniste sud-africain voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ce militant nationaliste, de ce révolutionnaire proche du bloc communiste en pleine guerre froide. Quelles sont les chances de ce remarquable tribun de gagner ses luttes ou au moins quelques-unes?
Ouvriers, paysans, travailleurs des plantations, des scieries et des concessions, travailleurs des mines, des chemins de fer, des ports et des usines, intellectuels, fonctionnaires, étudiants, soldats mozambicains dans l'armée portugaise, hommes, femmes et jeunes, patriotes, en votre nom, le Frelimo proclame aujourd'hui solennellement l'insurrection générale du peuple mozambicain contre le colonialisme portugais.
Qui est ce personnage, le visage perçant, envahi par la barbe, qui ose ainsi défier le Portugal de Salazar? Qui est ce Samora Machel qui s'attaque aux intérêts multiséculaires du colonisateur? Samora Moïse Machel voit le jour en octobre 1933 à Madrago, petit village de la vallée de Limpopo à environ 200 km de Lourenço Marques, actuel Maputo, dans le district de Gaza, une région frontalière avec le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Une zone où l'on cultive le blé, les haricots, le pois et le maïs. C'est dans cet environnement que très tôt le jeune garçon découvre l'exploitation imposée par le colonisateur portugais. Il exprime plus tard en ces termes: nous vendions un kilo de haricots 3,5 escudos, tandis que les fermiers européens vendaient le leur 5 escudos. Et le lendemain, après avoir vendu nos récoltes, nous devions acheter ces mêmes produits 6 escudos le kilo, c'est-à-dire presque le double du prix qu'on nous payait. D'ailleurs, dans sa région, nombreux sont les hommes qui ont été vendus à l'Afrique du Sud pour y travailler dans les mines. Le frère aîné de Samora Machel et d'autres parents y sont morts, tandis que d'autres en sont revenus avec la tuberculose, amputés ou mutilés. Né d'une famille de conditions très modestes, Samora Machel va suivre ses études dans un établissement primaire catholique, bien que ses parents soient de confession protestante. Il faut dire que l'Église catholique de Rome a reçu dans le territoire le monopole de l'éducation au début des années 1940. Dans cette institution, où la préoccupation majeure était l'endoctrinement, au bout de 6 ans, les élèves, dont beaucoup provenaient des milieux protestants, étaient obligés d'accepter le baptême catholique s'ils voulaient obtenir leur examen. C'est ce qui est arrivé à Samora Machel. Remarqué par les missionnaires qui apprécient ses qualités, notamment sa vivacité d'esprit, il lui propose d'entrer au séminaire. Le jeune garçon ne veut pas de cette vocation imposée. Il veut poursuivre ses études au lycée. Mais sans moyens financiers, il décide de monter à la capitale Lourenço Marques. Il va trouver un emploi pour payer sa scolarité dans une école secondaire pour adultes. Il suit des études d'aide médicale. Mais les circonstances ne vont pas lui permettre de terminer sa formation. Olivier Machel, sa fille.
La vie de mon père a été quelque chose d'extraordinaire. Il était infirmier de profession.
Il faut dire que son diplôme d'aide médicale, il ne l'a pas obtenu parce que dans l'ambiance des indépendances qui se succèdent dans les pays africains, Samora Machel se sent attiré, séduit par le combat. Il est subjugué par ce qui se passe au Congo. L'indépendance arrachée de haute lutte aux colonisateurs belges par les nationalistes réunis à Bruxelles pour la table ronde. Léopoldville, 30 juin 1960.
D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres, les ethnies qui jadis ennemies s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement.
Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés aux seuls blancs.
Cette indépendance qui suscite enthousiasme et ferveur populaire va voler en éclats seulement 5 jours après.
C'est dans l'émeute et le sang que se sont déroulées les premières heures de la nouvelle République congolaise, née de l'ex-Congo belge. Léopoldville reste encore vide et muette, prostrée dans la stupeur et l'effondrement après les violences des derniers jours. Magasins dévastés, immeubles incendiés, automobiles brûlés, c'est le décor sinistre de la capitale à l'heure de l'indépendance. Aussi, les Européens qui restent ont demandé des armes. On leur en a donné. Les familles vont choisir dans ces dépôts disparates de quoi tenir tête. Les avions belges continuent également à transporter à Bruxelles des groupes d'Européens. Bruxelles leur a fait un accueil douloureusement ému. Mais cette émotion nationale n'est pas restée inactive. Les mêmes avions qui amenaient les sinistrés ramenaient leur pleine cargaison de troupes. Précaution qui empêcherait peut-être de nouveaux désordres sanglants, mais n'effaçait pas les deuils d'hier. Et à ces deuils, la Belgique mêlait sa colère. Une manifestation d'anciens coloniaux allée dans les rues de Bruxelles en donnait l'illustration. L'ONU était saisie de la question. Le délégué belge devait, devant l'Assemblée, évoquer dans leur tragique nudité les dramatiques journées.
Ces troubles ont pour cause la mutinerie des forces de l'ordre de la jeune République. Car nul, et je tiens à le souligner, ne songe à remettre en cause l'indépendance du Congo, ni la validité de la recommandation formulée par ce Conseil il y a une semaine à peine. Les assurances les plus formelles ont d'ailleurs été données à ce sujet par le gouvernement de Bruxelles, et chacun de nous n'a qu'un désir, celui d'aider ce jeune État à développer chez lui l'ordre, la paix et la prospérité.
Dans Léopoldville, bouleversée par la révolte, la gendarmerie restait la seule force congolaise devant l'armée mutinée. Elle avait rétabli le calme, un calme relatif sans doute, mais les mutins occupaient toujours l'aérodrome, coupant toute communication avec l'extérieur. Ce fut donc aux troupes belges de libérer l'aérodrome et les quelques centaines de civils prêts au départ qui s'y étaient entassés et qui se trouvaient à la merci des émeutiers. C'est dans le sifflement des balles que les réfugiés de l'aérodrome eurent le sentiment de leur délivrance.
Samora Machel affirmera plus tard à quel point il a été horrifié, je cite, par l'intervention impérialiste dans ce pays dont les leaders les plus éminents ont été liquidés. Mais c'est deux autres événements qui vont définitivement l'amener à quitter la vie civile pour s'engager dans la lutte nationaliste. C'est d'abord le déclenchement de la lutte de libération en Angola en 1961, puis l'accession à l'indépendance du Tanganyika, actuelle Tanzanie. Nous sommes le 9 décembre 1961.
Savez-vous qu'une nouvelle nation va naître ce soir? Oui, une nouvelle nation africaine. À minuit, très exactement, le Tanganyika proclamera sa souveraineté, son indépendance, et entrera dans le concert des nations. Il entrera aussi, à vrai dire, dans le Commonwealth. Et à Londres, on a bien sûr célébré l'événement aujourd'hui, nous dit Jacques-Olivier Chatin.
3 services religieux ont été célébrés aujourd'hui pour marquer l'accession à l'indépendance du Tanganyika. Les représentants du gouvernement britannique sont allés successivement à l'abbaye de Westminster, à la cathédrale catholique de Westminster et à la mosquée de Londres. Eh bien, ce n'est pas seulement un symbole. L'accession du Tanganyika à l'indépendance a donné peu de soucis à la Grande-Bretagne. Les ministres de Sa Majesté ont fait confiance à un Africain, ancien élève des missions catholiques, Julius Nyerere, aujourd'hui Premier ministre du Tanganyika. Le premier témoignage de leur nouvelle indépendance, un témoignage sonore, l'hymne national du Tanganyika.
This is the day for which we have so long looked.
Ceci est le jour que nous avons tant attendu. Le jour où tous les Tanganyikais peuvent dire « Je suis citoyen d'un État souverain ».
Julius Nyerere est l'icône, le principal partisan de cette accession à la souveraineté internationale du Tanganyika. Pourtant, coup de théâtre, 9 semaines seulement après cette fastueuse cérémonie d'indépendance, Julius Nyerere décide de démissionner de son poste de premier ministre. Il confie la direction du gouvernement à l'un de ses fidèles compagnons de lutte, Rachidi Kawawa. Il reste membre du Parlement et président de la TANU, le parti. Le Mwalimu est pour l'ensemble des nationalistes mozambicains un modèle, une icône. Comme en Angola, il faut se battre pour la souveraineté du pays, pour en finir avec 500 ans de colonialisme portugais. À cette même époque, le docteur Eduardo Mondlane visite le Mozambique en qualité de fonctionnaire des Nations Unies. Il met alors son séjour à profit pour prendre de nombreux contacts. Samora Machel est l'un des jeunes gens avec qui il passe de longues heures à discuter de l'avenir du pays. Il faut dire que le fonctionnaire ne supporte plus cette situation de colonisation de son pays. Et c'est justement de cela dont il parle avec Samora Machel. Le docteur Eduardo Mondlane essaie de rassembler les cadres autochtones du Mozambique, spécialement des étudiants, dans un mouvement d'opposition. L'Union nationale des étudiants du Mozambique, UNEMO, organisation qui est très rapidement interdite. Mais elle va trouver refuge à Dar es Salaam, la capitale voisine de la Tanzanie. Peu après d'ailleurs, Mondlane va démissionner de son poste à l'ONU pour s'installer en Tanzanie, où il va travailler avec quelques autres compatriotes à la création du Frelimo, le Front de Libération de Mozambique, dont il devient le président. Contrairement à Julius Nyerere, leur protecteur, le petit groupe réuni autour de leur leader intellectuel et doctrinaire a pris conscience que seule la lutte armée est susceptible de déboucher sur l'indépendance, pourtant acquise par négociation dans la plupart des pays francophones et anglophones du continent. Il faut dire qu'à Lisbonne, les dirigeants et la population n'envisagent pas un départ de l'Afrique. Ils vantent d'ailleurs leur modèle singulier.
Nous ne sommes pas des colonialistes, je crois bien que nous sommes surtout des colonisateurs. Et il faut que l'homme blanc reste en Afrique, il faut qu'il travaille et qu'il... L'Afrique ne peut pas se développer sans l'aide de l'homme blanc.
Nous sommes très habitués à être un cas unique. Nous avons l'habitude de dire que le difficile, nous le faisons tout de suite. L'impossible, ça prend un peu plus de temps, mais on le fait aussi.
Plus question d'accepter cette condescendance. Le Frelimo, le Front de Libération du Mozambique, soutenu par la Tanzanie, se rapproche des autres mouvements nationalistes qui, comme lui, se battent pour mettre fin à la colonisation. Ainsi, un premier contingent de combattants est envoyé en Algérie. Samora Machel est du nombre. De retour, le 25 septembre 1964, il est chargé d'installer le premier camp militaire d'entraînement aux abords de la frontière tanzanienne, avec 250 camarades. C'est de cet endroit que va partir le déclenchement des premières opérations de guérilla. Samora Machel invite à l'insurrection totale.
Ouvriers, paysans, travailleurs des plantations, des scieries et des concessions, travailleurs des mines, des chemins de fer, des ports et des usines, intellectuels, fonctionnaires, étudiants, soldats mozambicains dans l'armée portugaise, hommes, femmes et jeunes, patriotes, en votre nom, le Frelimo proclame aujourd'hui solennellement l'insurrection générale du peuple mozambicain contre le colonialisme portugais, pour la conquête de l'indépendance totale du Mozambique.
Olivia Machel, sa fille.
Não é? E essa parte humana dele de se dedicar a muitas pessoas. As pessoas pensam que ele era muito duro, mas no fundo meu pai era uma pessoa muito...
Quand il a rejoint le Frelimo, mouvement pour la libération, il est devenu un commandant. Il avait une très grande discipline. Il était un bon chef.
Eduardo Mondlane, le président du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique, raconte, extrait d'une interview papier.
Nous campions près du lac Chai. Je dis à l'un de nos camarades qui portait l'uniforme de s'habiller en civil et d'aller faire un tour de reconnaissance en ville. il entra en conversation avec un Africain qui lui révéla inconsciemment l'endroit où dormaient les troupes. Les troupes blanches dormaient derrière la maison du chef de canton. Les officiers dormaient, eux, dans la maison du chef de canton. Les soldats africains dormaient dans le secrétariat. Je fis un plan d'attaque. Une arme automatique devait neutraliser les troupes africaines dans le secrétariat. Je décidai de concentrer l'attaque sur la maison où se trouvaient le chef de canton et les officiers. Le garde était blanc. Je m'approchai pour l'attaquer. Mes coups de feu devaient être le signal pour l'attaque des camarades. Lorsqu'il entendit les coups tirés, le chef de canton ouvrit la porte et sortit. Il s'écroula, fatalement touché. 6 autres Portugais furent tués lors de la première attaque. Le jour suivant, nous étions poursuivis par quelques troupes, mais elles ne purent pas nous rattraper car nous étions déjà bien loin.
Dans cette guérilla, Samora Machel va très vite s'illustrer comme un chef militaire redoutable, craint et aimé. Il fait preuve d'un sens aigu pour gérer les dangers et les subtilités du combat de brousse. Il est d'ailleurs l'un des premiers combattants à pénétrer au Mozambique et à y déclencher la lutte armée le 25 septembre 1964. Ainsi, 2 ans seulement plus tard, en 1966, il accède au poste de secrétaire de la Défense. Il va même représenter le Frelimo, le Front des Libérations du Mozambique, au comité central du parti auquel il est élu en 1968. Samora Machel est un inconditionnel du docteur Eduardo Mondlane. C'est pourquoi il approuve sans réserve le centralisme de la direction du Frelimo. Il est partisan d'une structure forte et sans faille et lutte contre toute forme de velléité séparatiste. Il adhère donc totalement à la résolution prise en octobre 1966 par le comité central du Frelimo qui condamne le tribalisme, le régionalisme et le racisme. Pour eux, ils sont aussi néfastes que le colonialisme.
Contre le tribalisme.
Contre
l'analphabétisme. Contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Contre la superstition. Contre la misère. Contre la faim. Contre le manque de vêtements. La lutte continue. Pour qu'un jour nous soyons tous égaux.
Bien sûr, la principale cible dans ces années-là reste le colonialisme.
Il y en a certains qui sont fiers, car ils ont été colonisés par les Anglais. Les Anglais sont civilisés et ils ont construit un grand empire. Il y en a d'autres qui pensent, parce qu'ils ont été colonisés par les Français, qu'ils sont plus développés intellectuellement, plus civilisés, plus impliqués. Parce qu'ils ont été colonisés par les Français. J'ai été colonisé par les Portugais. Le pays européen le plus arriéré, mais toujours colonialiste. Le colonialisme est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de colonialisme humain. Il n'y a pas de colonialisme démocratique. Il n'y a pas de colonialisme qui n'exploite pas.
Devant l'avancée du Frelimo, le Front des Libérations du Mozambique, et l'adhésion qu'il suscite dans la population, le Portugal, qui fait déjà face à d'autres insurrections dans ses colonies d'Angola et de Guinée, déploie des troupes partout dans le pays. Il faut mettre fin à cette rébellion qui gagne du terrain. Pas question de laisser la manne africaine à des maquisards, à des terroristes. Les têtes des leaders désormais mises à prix resteront-elles longtemps sur leurs épaules en cette fin de la décennie 60 où Lisbonne déploie même des mercenaires? Réponse dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Samora Machel. Restez à l'écoute du journal et on se retrouve dans une dizaine de minutes. À très vite.
Les archives d'Afrique. Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ouvriers, paysans, travailleurs des plantations, des scieries et des concessions, travailleurs des mines, des chemins de fer, des ports et des usines, intellectuels, fonctionnaires, étudiants, soldats mozambicains dans l'armée portugaise. Hommes, femmes et jeunes, patriotes, en votre nom, le Frelimo proclame aujourd'hui solennellement l'insurrection générale du peuple mozambicain contre le colonialisme portugais.
Quelque temps seulement après avoir rejoint le maquis, l'infirmier, qui est passé par une courte formation militaire en Algérie, est désormais l'un des principaux leaders du mouvement nationaliste mozambicain, le Frelimo, qui opère à partir de la Tanzanie contre le colonisateur portugais. Et cette insurrection à laquelle il convie tous les mozambicains, il va en être le principal commandant en chef auprès de son président, le docteur Eduardo Mondlane. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Samora Moïse Machel.
La lutte continue. Il y en a certains qui sont fiers, car ils ont été colonisés par les Anglais. Les Anglais sont civilisés, ils ont construit un grand empire.
Et autres, qui furent colonisés par les Français.
Il y en a d'autres qui pensent, parce qu'ils ont été colonisés par les Français, qu'ils sont plus développés intellectuellement, plus civilisés, plus impliqués, parce qu'ils ont été colonisés par les Français. J'ai été colonisé par les Portugais, le pays européen le plus arriéré. Le colonialisme est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de colonialisme humain. Il n'y a pas de colonialisme démocratique. Il n'y a pas de colonialisme qui n'exploite pas.
Désormais, en ce milieu de la décennie 60, les nationalistes ont un mouvement de lutte de plus en plus organisé. Le Frelimo, le Front des Libérations du Mozambique, avec un comité central qui condamne le tribalisme, le régionalisme et le racisme comme étant aussi néfaste que le colonialisme. Il adopte un autre principe qui redevient un leitmotiv tout au long de leur lutte et qui prône l'émancipation des femmes. Parallèlement au développement et à la structuration de la lutte armée, le Frelimo se dote d'un commissariat politique composé de plusieurs sections qui dirige les commissaires politiques des districts, localités et centres. Ainsi, en 1967-68, le commissariat politique va mettre un accent fort sur l'enseignement, fondement de l'émancipation d'un peuple qui doit être convenablement nourri et éduqué.
Viva, viva, Frelimo, viva, viva,
le Frelimo s'est enraciné dans les plus anciennes luttes populaires au sein des masses travailleuses mozambicaines. Il a assumé les intérêts réels des larges masses humiliées et opprimées. Il a défini avec certitude les moyens à utiliser pour notre combat libérateur.
Et pour ce combat libérateur, le Frelimo va mettre sur pied des coopératives agricoles. Des milices et des détachements féminins travaillent à la mobilisation et à l'organisation des populations africaines. Mais une œuvre comme celle-là ne peut aller sans certaines divergences au sein du mouvement. Un exploiteur, qu'il soit noir, blanc ou jaune, n'a pas sa place dans notre front. Ces propos de Samora Machel annoncent une purge importante au sein du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique.
Nous avons détruit entre nous les faux compromis. Notre amitié doit être une base d'amitié militante. Une amitié révolutionnaire. Une amitié inspirée par les intérêts du peuple mozambicain.
3 février 1969, Dar es Salaam, capitale de Tanzanie. Le président du Frelimo, Eduardo Mondlane, qui vit en exil dans le pays sous la protection du régime, reçoit un colis postal. Il est censé contenir le livre de Plekhanov. C'est un cadeau. Au moment où il ouvre fiévreusement son paquet, il lui explose au visage.
leader du mouvement qui avait déjà échappé à plusieurs attentats, à la fois du PID, la police politique portugaise, et de quelques nationalistes mozambicains, est tué sur le coup. Le Frelimo est orphelin de son chef. Rapidement, un triumvirat composé de Samora Machel, qui est chargé de la défense et qui prend le titre de commandant en chef des forces armées, le révérend Urias Simango, ancien dirigeant de l'Union démocratique mozambicain, UDENAMO, l'une des composantes du Frelimo, et Marcelinos dos Santos, qui devient secrétaire d'État aux relations extérieures et secrétaire politique, prennent la direction collégiale du mouvement. Mais cette association ne va pas durer bien longtemps. Le mouvement est le théâtre d'une violente lutte d'influence. Le révérend Simango publie un manifeste dans lequel il lance des accusations graves contre Samora Machel. Il dit, je cite, « Les chefs militaires font assassiner leurs rivaux au sein du mouvement. » C'est la rupture avec le révérend Simango accusé d'individualisme et d'ambition personnelle. En mai 1970, le comité central du parti déclare sa ligne politique, je cite, « contre-révolutionnaire ». Au terme de violentes guerres intestines, Samora Machel est désigné le 25 mai 1970 président du Frelimo. Marcelinos dos Santos assure la vice-présidence du mouvement. C'est fort de cette légitimité qu'il se rend à Rabat au Maroc en 1972, au sommet des chefs d'État de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, où il se présente comme le dirigeant incontesté d'un mouvement qui vient de fêter le 10e anniversaire de sa fondation. Pendant ce temps, Lisbonne renforce son armée, envoie des troupes sur place. Des contingents de mieux en mieux armés débarquent chaque jour à Lourenço Marques. Mais ils doivent faire face à une guérilla très mobile qui bénéficie du soutien des populations noires. L'armée portugaise ne fait pas de quartier. Elle massacre les populations, brûle leurs cases, arrête des civils sans toujours mettre la main sur les soldats du Frelimo.
Deux missionnaires espagnols auraient révélé à un ecclésiastique britannique les massacres de décembre dernier. C'est sous sa signature que le très sérieux Times, publié il y a quelques jours en première page ses témoignages. Depuis, on se pose des questions dont les réponses ne pourraient être fournies que par l'enquête que mènerait le Concert des Nations. Car si des missionnaires hollandais confirment les déclarations du père Hastings, de leur côté, les autorités portugaises opposent un démenti formel, ce que confirment d'ailleurs les responsables du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique. Pourtant, selon ces mêmes responsables, des massacres moins importants mais dramatiques par leur fréquence ne cessent d'être perpétrés. La guérilla dure depuis 8 ans dans le nord du territoire portugais du Mozambique et à longueur de semaine, des soldats portugais sont amenés pour tenter de mater l'insurrection. Du côté portugais, la lutte est menée avec la technologie d'une guerre moderne, hélicoptères, blindés, chasseurs, bombardiers à réaction. En face, il y a les forces du Frelimo, équipées seulement d'armes automatiques d'infanterie et se déplaçant d'une base à l'autre avec rapidité, profitant des couverts qu'offrent les vallées très boisées du Zambèze. La tactique de harcèlement du Frelimo semble avoir porté ses fruits puisque l'armée portugaise a dû adopter une position offensive, effectuant de vastes opérations de ratissage dans les régions de savane soupçonnées d'abriter des groupes de partisans du front. Aujourd'hui, les Portugais en sont à la tactique du village fortifié, c'est-à-dire que chaque village est investi par quelques-uns des 60 000 soldats portugais. Les autorités portugaises elles-mêmes reconnaissent que dans toutes les guerres, il y a des abus et qu'aucun général en chef n'a jamais pu contrôler ces abus. C'est ainsi que les missionnaires espagnols ont fait parvenir ces photographies que vous voyez maintenant au père Hastings qui montrent des exécutions sommaires, des corps mutilés, dont les têtes, vous allez voir, plantées au bout de pieux, sont montrées de village en village. Ces photos ne prouvent pas que 400 personnes aient été sommairement exécutées en décembre dernier. Elles prouvent que des abus sont commis et nombreux sont les Britanniques qui comptent boycotter le voyage de M. Caetano si celui ne permet pas qu'une commission internationale aille enquêter sur place.
La guerre est cruelle et la répression féroce. Mais Samora Machel va s'investir pour éviter que le découragement ne gagne ses rangs. Au nord du pays, sur le Zambèze, se construit, grâce à l'afflux des capitaux venus de la plupart des nations occidentales, un important barrage. Pour mener cette lutte longue et coûteuse, il faut trouver de l'argent. Malgré la présence à Dar es Salaam du comité de décolonisation de l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, qui dispense des crédits aux nationalistes africains, le Frelimo va se tourner vers les pays de l'Est et la Chine. C'est eux qui vont lui fournir les armes et les subsides. Marcelino dos Santos, le vice-président du Frelimo.
Donc vous dites très franchement qu'aujourd'hui, l'amitié de la Chine ou de l'Union soviétique ne font pas peur aux peuples africains et ne font pas peur aux peuples mozambicains. La pratique nous a montré que cette amitié était une amitié solide.
Samora Machel, accusé de communisme, se défend d'être marxiste, bien qu'il semble avoir bien maîtrisé les préceptes du maoïsme. Il veut garder sa liberté d'action, même si par la force des choses, il est obligé de compter de plus en plus sur l'aide que lui fournit l'Union soviétique.
My people, open your eyes and answer the call of the drum. Frelimo, Frelimo, Samora Machel, Samora Machel has come.
Dans les régions libérées du Mozambique, nul n'a le droit de vivre du travail des autres. Les notions de grade, de promotion n'existent pas dans le Frelimo. Tel soldat qui fait office de commandant provincial un jour peut être nommé, le lendemain, commandant d'un nouveau district de moindre importance sans considérer pour autant qu'il a été dégradé. Simplement, les combattants sont envoyés là où ils peuvent servir de la façon la plus efficace. Ces exemples reflètent l'attitude de Samora Machel et de ses compagnons. Il est un orateur brillant qui possède justement le don rare d'exposer ses notions politiques parfois complexes dans un langage compréhensible de tous. Le leader du Frelimo est en train de gagner en popularité, tant à l'intérieur du pays où il voyage sans cesse dans les zones libérées, qu'à l'international. Il établit des relations étroites et cordiales avec les dirigeants africains de la sous-région, mais également avec ceux du bloc de l'Est. Une réception digne d'un chef d'État lui est même réservée en Somalie en décembre 1973. Même accueil à Dar es Salaam, en Tanzanie et en Zambie, où l'accueille le président Kenneth Kaunda. Décembre 1972, la réunion du comité central se conclut par un mot d'ordre. Offensive générale sur tous les fronts.
L'armée portugaise qui patrouille dans Luanda, la capitale de l'Angola, semble effectivement avoir rétabli le calme. Mais la ville a connu une semaine violente et sanglante. Au moins 30 personnes ont été tuées, plus de 200 blessés et 400 internés dans un camp. Blancs et noirs se sont affrontés dans les rues de la ville et dans les quartiers indigènes. Des maisons ont été plastiquées, des hommes abattus. Règlement de compte entre une population noire qui s'impatiente avant d'accéder à l'indépendance et des colons portugais qui sont effrayés par la future accession au pouvoir des Angolais. Aucune date n'a été fixée pour l'autodétermination de l'Angola ni pour son indépendance, mais les pieds-noirs d'Angola ne se font aucune illusion. Et dans les deux camps, l'espoir ou la peur engendre la terreur, la haine raciale et la violence une nouvelle fois. Les manifestations blanches contre l'indépendance ne changeront pas le cours des choses. Effrayés, près de 50 000 Portugais auraient déjà quitté l'Angola pour retourner au Portugal. Cette violence, cet affolement en Angola comme au Mozambique ne font que précipiter la fuite des Portugais et rendre plus difficile le passage rapide à l'indépendance. Cela donne aussi des points à ceux qui, déjà, préparent des milices de combattants blancs pour résister malgré tout, avec l'aide plus ou moins avouée de la Rhodésie et de l'Afrique du Sud, à l'arrivée des Noirs au pouvoir. Et le processus s'accélère. Dans le nord-est du Mozambique, l'armée est aussi intervenue, c'est la panique. Des milliers de Portugais et d'Indiens, agriculteurs et commerçants, fuient en désordre. Une retraite lamentable. Des milliers, peut-être 20 000 Noirs, massacrent gens et bétail, pillent et incendient les maisons, dans une zone que ni l'armée portugaise, ni les mouvements de libération ne contrôlent. Pour l'Angola, comme pour le Mozambique, la quiétude est terminée. C'est le cycle de la haine et de la peur, c'est peut-être aussi un nouveau Congo ou une nouvelle Algérie qui s'enflamme.
Le Mozambique vit désormais au rythme de la guerre de libération. Le Frelimo se prépare à mener un combat de longue haleine. Mais un événement inattendu va redistribuer les cartes. Le général Spinola, croisé dans une rue de Lisbonne par la presse française.
Est-ce que vous pensez être un jour le futur président du Portugal?
Non. Pas d'aspiration politique.
Vous n'avez pas d'aspiration politique?
Non, seulement un chef militaire.
Mais vous n'avez plus de fonction militaire précise pour l'instant?
Non, seulement un chef militaire. Un homme de formation essentiellement militaire.
Alors, je lui ai présenté ce livre, son livre, devrais-je dire, Le Portugal et l'avenir, le fameux livre aujourd'hui introuvable qui a été le détonateur de la crise. En le signant, il s'est excusé. Pardonnez-moi, a-t-il dit, mais je ne suis pas habilité à faire des déclarations. Il a juste apposé sa signature.
En Portugal,
les chefs militaires peuvent penser. Ce livre n'est pas un livre politique. C'est seulement le livre d'un penseur. C'est la preuve que le Portugal est un État démocratique? Oui, bien sûr. Ce livre le prouve? Bien sûr, sinon il ne serait pas sorti. Vous n'êtes pas un conspirateur, non? Je suis un Portugais. Je suis seulement un Portugais. Qui voudrait le progrès de sa patrie.
Un progrès qui passe par un changement de régime. Avril 1974, des capitaines décident de mettre fin au régime qui domine au Portugal depuis 1933. C'est la révolution des œillets qui met fin à la dictature de Salazar. Cette transformation saluée de toutes parts offre la particularité de voir des militaires abattre un système sans pour autant instaurer un régime autoritaire. Les officiers qui prennent le pouvoir sont porteurs d'un projet démocratique, à savoir la mise en place d'un gouvernement civil, l'organisation d'élections libres et la décolonisation.
C'est l'histoire de notre peuple. Le Portugal se retire définitivement du continent africain.
Dans les territoires occupés par le Portugal, on se réjouit. C'est le début d'une nouvelle ère. Même si le général Gomes tient à rassurer les armées qui combattent dans les colonies.
Oui, c'est... Non, ce n'est pas nécessaire de rassurer les militaires. C'est surtout nécessaire de rassurer la population civile.
Cette révolution des œillets, les leaders indépendantistes africains en sont plutôt contents. Surtout que certains d'entre eux estiment que le général Spinola connaît la réalité du terrain et les forces en présence. Francisco Mendes, l'un des leaders du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, d'Amilcar Cabral.
Oui, je considère que le général Spinola, qui a employé toute sa tactique de guerre anti-guérilla chez nous pour voir s'il pouvait détruire notre lutte en 2 ans, puis en 4 ans et 5 ans, il a eu un échec total.
Que va-t-il se passer selon vous?
Nous pensons que après le cessez-le-feu, comme je l'ai dit, il faut que les troupes portugaises quittent définitivement notre pays.
Vous avez l'impression qu'ils sont prêts à se retirer pour de bon, à décoloniser véritablement les Portugais?
C'est ça l'impression que nous avons. Nous pensons que la nouvelle équipe veut vraiment décoloniser. Mais ça dépend aussi de beaucoup de facteurs, point de vue économique. Par exemple, en Angola et Mozambique, là où ils ont des grands intérêts, des grands capitaux étrangers, tout ça là. Et d'une façon ou d'une autre, nous pensons que ils sont décidés à décoloniser.
En effet, la question de la décolonisation n'est pas tranchée. Les intérêts du Portugal dans les colonies restent très, très importants. Et les colons, qui détiennent l'essentiel de l'économie et qui sont là depuis des décennies, n'envisagent pas un seul instant un changement qui les oblige à partir ou au moins à perdre leurs privilèges. Lisbonne et les nouveaux dirigeants qui ont renversé le régime de Salazar sont-ils prêts à renoncer à toutes ces richesses naturelles, à l'importante manne que rapportent les colonies? Les colons, qui détiennent l'essentiel de l'économie, vont-ils assister à la fin de cette ère qui les protégeait sans réagir? Rien n'est moins sûr. Les choses ont certes changé à Lisbonne et ouvrent de nouvelles perspectives au Mozambique, mais le combat est loin d'être gagné comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Samora Machel. Mais en attendant, vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre portable, votre téléphone en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.